franceinter.fr.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, excuses pour fêtes religieuses, aménagement d'un espace de prière, voire refus de travailler avec des femmes. Les convictions religieuses s'affichent de plus en plus fréquemment dans les entreprises. La plupart du temps, cela ne pose aucun problème, mais les cas conflictuels sont de plus en plus nombreux. Témoignages recueillis par Philippe Randet dans quelques instants, le rappel de la loi avec Manuel Ruffez. Et l'invité de ce journal sera l'un des auteurs de cette étude, Lionel Honoré. Encore une affaire de mélange des genres à la Commission européenne. Après le pantouflage de José Manuel Barroso, la société aux Bahamas de l'ex-commissaire à la concurrence. C'est l'une des révélations des Bahamas Leaks qui viennent après les Panama Papers. De quoi s'agit-il? Explication et nous irons à Bruxelles. Vitrine explosée, boutique dévalisée, deuxième nuit d'émeute à Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis. La question noire revient dans la campagne électorale américaine. Les procédures d'adoption d'enfants à l'étranger risquent d'être bloquées pour de longs mois à partir de l'année prochaine. Conséquence d'une réforme des organismes du secteur. Une promesse de campagne tenue, encore bravo, les 60 000 postes dans l'éducation, ce sera finalisé dans le budget 2017, promesse tenue donc, mais peut-on réellement parler de 60 000 vrais postes? Bernadette Chirac hospitalisée après son mari, besoin de souffler, nous prendrons des nouvelles du couple Chirac. Et puis la météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
L'automne commence plutôt bien, Élodie. Dégradation tout de même sur le nord-ouest.
Oui, on a une perturbation de la Bretagne jusqu'aux Charentes, à l'Orléanais, la région parisienne, au nord de la Seine, avec pas mal de nuages, quelques belles éclaircies quand même, des nuages plus épais de l'intérieur de la Normandie vers les Hauts-de-France avec quelques averses, même chose pour la pointe bretonne. En allant vers le sud et l'est, là on trouve le soleil, un soleil parfois voilé entre le nord de l'Aquitaine et la Lorraine, quelques nuages aussi pour les Alpes et sur le relief corse et une averse possible dans la partie sud de la Corse.
Et les températures sont assez douces.
Et oui, on commence l'automne en douceur. Bruno, comptez 20 degrés à Brest et Deauville, 22 à Strasbourg, à Nantes, 23 pour Lille et Paris, 24 du côté de Lyon, 26 à Bordeaux, jusqu'à 27 à Toulouse ou Avignon. Demain, de bons moments de soleil, des températures agréables entre 19 et 26 degrés.
À la fin de ce journal, nous prendrons des nouvelles des Daft Punk. Soyez les bienvenus dans le journal de 13h.
France Inter.
Une brèche de plus dans les paradis fiscaux. Après les Panama Papers, voici les Bahamas Leaks. Des informations sur les sociétés offshore inscrites aux Bahamas et qui les administre. On va voir dans un instant que cela met une fois de plus dans l'embarras la Commission européenne. Une commissaire est visée, Nelly Kroes, ex-commissaire. D'abord, ces Bahamas Leaks, de quoi s'agit-il plus précisément? C'est une nouvelle révélation du consortium international des journalistes d'investigation auquel est associé le journal Le Monde. Écoutez Jérémy Baruc du Monde avec Christian Chéneau.
On peut dire que c'est le prolongement des Panama Papers dans la mesure où ça continue de lever un peu plus le voile sur les paradis fiscaux et le fonctionnement des paradis fiscaux. En fait, les documents sont pas du tout les mêmes qu'il y avait dans les Panama Papers. Dans les Panama Papers, il y avait beaucoup de mails notamment qui s'échangeaient entre la société Mossack Fonseca et les différents intermédiaires qui montaient des sociétés. Là, c'est vraiment une sorte de registre du commerce des sociétés aux Bahamas. C'est vraiment un listing des différents administrateurs des sociétés et des actes d'enregistrement des sociétés. Donc il y a beaucoup moins d'informations de pattes humaines, on va dire.
Est-ce que les Bahamas Papers ont livré tous leurs secrets? J'imagine qu'il y aura d'autres noms qui vont sortir.
Il y a probablement d'autres noms, mais ce qui se passe, c'est que la taille de la fuite est beaucoup plus faible. Hein. C'est 38 gigas, donc c'est 80 fois plus petit que ce qu'on avait dans les Panama Papers. Donc du coup, ce sera plus compliqué de trouver des noms. Alors il y en aura probablement plus qui vont sortir. Pour l'instant, je peux pas en dire plus.
Alors, moins de pattes humaines que dans les Panama Papers, il y a tout de même un nom qui ressort. C'est celui de Nelly Kroes, ancienne commissaire européenne à la concurrence et en même temps directrice d'une société aux Bahamas pendant son mandat, ce qui est interdit, surtout qu'elle n'avait rien dit. Le code de conduite de l'Union européenne pour les commissaires est clair, pas d'activité professionnelle rémunérée ou non. Et il faut signaler toutes celles qui ont donné lieu à un paiement dans les 10 années précédant le poste. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
La Commission européenne, ce devrait être le temple de l'intérêt général en Europe, sauf que le mélange de genres public-privé, les affaires sur ce thème se multiplient, Pierre.
Oui, effectivement, pour l'image de la Commission, les révélations sur Nelly Kroes ne font vraiment pas bien dans le tableau, même s'il s'agit de la précédente Commission, celle qui a été active jusqu'en 2014. Nelly Kroes, d'ailleurs, a reconnu elle-même qu'elle aurait dû déclarer son implication dans la société offshore bahamienne Mint Holdings. Elle estimait que comme il n'y avait pas eu d'activité opérationnelle réelle, son rôle de conseiller n'aurait pas d'implication sur son travail comme commissaire européen. Il reste que les commissaires, vous l'avez dit, sont tenus d'inscrire dans ce registre public toutes les activités des 10 dernières années, surtout si elles ont donné lieu à rétribution. Alors ces révélations, effectivement, viennent s'ajouter au pantouflage de l'ancien président, José Manuel Barroso, par la banque Goldman Sachs. Nelly Cruz, d'ailleurs, a fait 2 mandats à la Commission européenne, tout comme José Manuel Barroso, donc elle était avec lui tout le temps. Et cette embauche de Goldman Sachs, de José Manuel Barroso, a déclenché une vraie vague de protestations dans l'opinion publique européenne. Et les révélations des LuxLeaks avaient déjà, elles-mêmes, jeté une ombre sur les premiers jours du mandat de Jean-Claude Juncker.
Alors, la Commission est-elle le royaume d'affairistes vendu au lobby de la finance? Cette image commence à s'ancrer dans l'esprit de beaucoup citoyens européens. Pierre Benazé, l'actuelle Commission essaye tant bien que mal de corriger le tir.
Oui, on va pas aller jusqu'à parler de nettoyer les écuries d'Ogias, effectivement, mais la Commission profite de ce que, par exemple, le médiateur européen les saisit pour demander formellement des explications à José Manuel Barroso puis à Nelly Cruz, ce qu'elle n'aurait pas pu faire sans le médiateur. Ça pourrait déboucher sur des sanctions, comme par exemple, il y en a a priori une seule, ça serait de les priver de leur droit à la pension en tant qu'ancien commissaire. Mais il est certain que la Commission veut profiter de la réprobation publique pour améliorer l'image des institutions européennes en s'en prenant au mouton noir qui dégrade cette image. Et d'ailleurs, le commissaire aux finances, Pierre Moscovici, en a profité lui aussi ce jeudi pour rappeler l'ampleur des initiatives prises par la Commission européenne pour lutter contre, je cite, l'inacceptable évasion fiscale, un mouvement entamé justement au début de la Commission Juncker après les révélations des LuxLeaks.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles. L'actualité en Europe, ce sont aussi les ventres en débat dans 2 pays où l'empreinte de l'Église catholique reste forte. En Italie, ce 22 septembre est décrété journée de la fertilité par le ministère de la Santé, qui veut inciter les femmes à faire des bébés. Le taux de fécondité italien est particulièrement bas, mais la campagne plus qu'offensive du gouvernement a soulevé la polémique en Italie. En Pologne, examen d'une proposition de loi qui restreint encore le droit à l'avortement dans ce pays où la loi est déjà l'une des plus sévères en Europe. Et puis en France, un prêtre du diocèse de Belfort-Montbéliard mis en examen mercredi, donc hier, pour le viol d'un mineur, est placé sous contrôle judiciaire. Les faits sont anciens, mais ils ne sont pas prescrits. L'homme a 55 ans, mis en examen pour des faits donc sur un mineur âgé d'une quinzaine d'années. Voici une information qui vous intéressera en particulier si vous avez pour projet d'adopter un enfant ou même si une procédure est en cours. L'adoption d'enfants à l'étranger pourrait être bloquée pendant plusieurs mois. Le gouvernement souhaite regrouper différents organismes de ce secteur pour mettre en place un nouvel organisme unique. Bonne intention de départ, mais ce nouvel organisme devra obtenir de nouveaux agréments auprès de chaque pays qui pratique l'adoption avec la France. Et cela prend évidemment beaucoup de temps. Le projet pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier. Conséquence évidemment très lourde pour des centaines de parents qui souhaitent adopter. Nathalie Parent, ça ne s'invente pas, préside la Fédération d'associations Enfance et Familles d'Adoption.
Les conséquences seront ou peuvent être l'interruption de toutes les procédures d'adoption. Cela veut dire qu'il peut y avoir des centaines de dossiers qui vont du jour au lendemain s'interrompre, alors que de l'autre côté, il y a les enfants et les parents qui attendent eux aussi depuis des années. Par exemple, en Russie, les parents se rendent plusieurs fois en Russie, donc ils ont déjà rencontré les enfants. Les enfants ont leurs parents, savent qu'ils vont venir les chercher, et ces enfants-là risquent de rester dans les institutions russes.
L'adoption internationale, on a le sentiment aujourd'hui qu'on ne la favorise vraiment pas.
On voudrait arrêter et détruire l'adoption internationale, on ne s'y prendrait pas mieux. Il y a 10 ans, il y avait 5000 enfants qui arrivaient de l'international. L'année dernière, il en est arrivé 815. Et si l'Agence française de l'adoption vient à disparaître, il n'existera plus d'adoption internationale en France.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Daniel Messager. Les convictions religieuses s'affichent de plus en plus fréquemment au travail. La plupart du temps, cela ne pose aucun problème, mais les cas conflictuels très minoritaires le sont un peu moins au fil des années. C'est l'enseignement d'une étude sur laquelle nous allons nous arrêter un peu longuement aujourd'hui. L'un de ses auteurs est l'invité du journal de 13h dans un instant. D'abord, témoignage recueilli par Philippe Randé. Il s'appelle Hervé Baulme, PDG de Ecoder, société d'insertion de travailleurs handicapés. Le fait religieux dans son entreprise, oui, il y est confronté et il gère cela au cas par cas.
C'est pas toujours facile. Maintenant, j'essaye de les individualiser et donc d'être à l'écoute de la personne et d'essayer de me rendre compte si c'est vraiment une démarche personnelle, intime, ou si c'est de l'ordre de la revendication du prosélytisme, et donc j'essaye de discerner en fonction de mon dialogue avec cette personne.
Vous avez eu plusieurs demandes dans votre entreprise ?
J'ai eu plusieurs demandes, effectivement, dont une que j'ai clairement refusée, parce que c'était vraiment quelqu'un qui voulait faire sa prière à une horaire bien précise, et donc exiger qu'on arrête le travail. Ça, je n'ai pas accepté que ça change les règles de travail. Et il y a une autre personne qui a fait la même démarche et qui s'est présentée vraiment tout à fait différemment. Il y avait un local qui était en rénovation et on a laissé donc cette salle qui n'était pas utilisée pour que la personne puisse mettre son tapis de façon discrète. Et voilà, et je sentis que c'était une vraie démarche sincère et donc qu'elle méritait respect.
Bonjour Lionel Honoré.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, l'un des auteurs de cette étude menée avec l'Institut Randstad. Alors, on ne va pas se mettre un bandeau sur les yeux, mais commençons par dire que les cas où la manifestation de conviction religieuse pose problème dans les entreprises, ces cas restent minoritaires.
Oui, tout à fait, oui. Il y a une augmentation un peu générale du fait religieux en entreprise. En tout cas, c'est de plus en plus fréquent. Les managers y sont de plus en plus confrontés, le rencontrent de plus en plus. Mais dans 90% des cas, un peu plus de 90% même, ça pose pas de problème particulier. En tout cas, c'est géré par de la pratique managériale classique. Et il y a un peu moins de 10%, à peu près 9% des cas qui provoquent des conflits, qui provoquent des blocages. Donc, qui sont plus problématiques.
Alors, quelles sont les demandes et quelles demandes posent problème?
Alors le fait religieux le plus banal, c'est les signes religieux visibles au travail, le port du foulard, le port d'une kippa, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre le plus souvent. Et ensuite, ce sont des demandes d'aménagement du temps de travail, donc des demandes d'absence éventuellement pour assister à des fêtes religieuses, des demandes d'aménagement de planning à la semaine, au mois éventuellement, pour pouvoir respecter des rites religieux particuliers. Ça, c'est vraiment le plus courant. Ce sont vraiment les trois types de demandes les plus classiques. Ensuite vient la prière individuelle pendant des pauses ou pendant un temps personnel au travail. Voilà, avec ces quatre demandes-là, on a les plus courantes, les plus classiques. Et puis bon, après, il y a des faits qui sont plus problématiques, comme le refus de réaliser des tâches, le refus de travailler avec une femme, le refus de travailler avec des non-coreligionnaires, etc.
Je disais, on ne va pas se mettre de bandeau sur les yeux. La religion la plus fréquemment concernée, c'est l'islam.
Oui, tout à fait. Nous, dans notre étude, on recense des cas dans à peu près toutes les religions, mais à plus de 90 ou 95%, c'est effectivement l'islam, oui.
Alors, problématique, vous le disiez, ces manifestations, 3% des cas en 2014, 6% en 2015, 9% des faits en 2016. Comment vous expliquez, voilà, que cela pose de plus en plus problème, Lionel Honoré?
Alors, le fait religieux au travail, le fait religieux en entreprise, c'est pas un fait d'entreprise, hein, c'est un fait de société. Mmh. Quand la religion pose question, éventuellement pose problème, quand il y a des problématiques liées à la religion dans la société, les entreprises y sont confrontées. C'est une problématique de société qui s'invite dans l'entreprise. La place de la religion dans l'entreprise, dans la société est questionnée. Par conséquent, ça aboutit également dans l'entreprise les comportements. Les comportements un peu radicaux, etc. Oui. On les voit dans la société, on les voit aussi dans l'entreprise.
Et il y a des secteurs professionnels plus concernés que d'autres.
Oui, ce sont les secteurs qui utilisent une main-d'œuvre peu qualifiée, qui sont les plus concernés. On va le retrouver dans le transport, dans la logistique, de manière générale, dans le traitement des déchets, dans des secteurs de ce type-là où il y a une main-d'œuvre peu qualifiée qui est très présente. Plus les salariés montent en qualification, moins la question du fait religieux est problématique. Ça ne veut pas dire qu'elle se pose plus, mais elle est moins conflictuelle, moins bloquante. Et puis on retrouve également dans des entreprises qui sont implantées dans des zones périurbaines sensibles, davantage de cas bloquants ou de cas conflictuels.
Alors Lionel Honoré, vous répondez à nos questions depuis le Sénat, où votre étude était présentée ce matin. Manuel Ruffès de France Inter est à vos côtés. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ce que dit la loi en la matière.
Alors oui, il y a en fait deux cas de figure qu'il faut bien différencier, le secteur public et le secteur privé. Commençons par le plus simple, le secteur public. Là, c'est le principe de laïcité qui s'impose. Le fait religieux est proscrit purement et simplement. Les fonctionnaires ne doivent pas afficher leurs convictions religieuses. Et ça, eh bien, ça n'est pas le cas dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il n'y a pas de cadre législatif spécifique. Et si le prosélytisme, par exemple, y est bel et bien interdit, un employeur ne peut pas interdire à ses salariés d'exprimer d'exprimer la religion, d'afficher sa religion. Il peut, ceci dit, y avoir des restrictions plutôt objectives, comme des raisons d'hygiène, de santé ou de sécurité, et puis des restrictions plus vagues, plus floues, qui tiennent au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est peut-être pour cela que la loi travail adoptée cet été veut tenter, dans le cadre des règlements intérieurs des entreprises, d'inscrire le principe de neutralité, ou en tout cas encadrer l'expression religieuse, en fixer les limites et les conditions.
Lionel Honoré, inscrire le principe de neutralité, c'est une bonne chose, c'est important désormais?
Ça se discute. Ça se discute, c'est-à-dire que quand nous, dans notre étude, ce qui ressort de notre étude, c'est que les gens qu'on a interviewés ne sont pas contre le fait de, sont pas pour proscrire le fait religieux de l'espace de travail. Ouais. Il y a tout un fait religieux qui pose absolument pas problème. Un salarié qui demande un jour d'absence pour assister à une fête religieuse, un salarié qui éventuellement porte un signe religieux s'il n'y a pas d'impact sur le fonctionnement de l'entreprise, sur la relation à la clientèle, etc. Pourquoi proscrire ça? Pourquoi lui demander de neutraliser complètement son comportement? Il faut être pragmatique. Il y a des comportements au travail qui ont une dimension religieuse et qui posent pas de problème, qui peuvent être gérés facilement par le management de proximité. Il faut aussi être ouvert aux personnalités, aux personnes, à leurs convictions, etc. Qu'elle déborde sur l'espace de travail, finalement, c'est pas très choquant. On appelle les salariés une implication de plus en plus personnelle. La religion fait partie de leur personne, les définit aussi, quoi. Et puis, il y a des faits religieux qui sont problématiques, face auxquels, là, pour le coup, il faut être capable d'agir et pour lequel il y a peut-être besoin d'un cadre législatif plus clair qui donne des moyens, davantage de moyens aux entreprises pour s'opposer à des salariés qui transgressent un certain nombre de règles, qui dépassent, qui vont de l'autre côté de la ligne rouge.
Par exemple, en l'occurrence, le rapport aux femmes, justement.
Le rapport aux femmes, très clairement, oui. le refus de travailler avec des femmes, le refus de travailler avec une personne en raison de sa religion, le fait d'organiser des prières collectives, par exemple, dans l'espace de travail, à des moments qui sont pas des moments de pause, en allant chercher des salariés qu'on a identifiés comme devant venir prier avec nous et en les forçant un peu à venir. Le prosélytisme actif, voilà, toutes ces choses-là, il y a besoin de les prendre au sérieux, même si elles sont très minoritaires, moins de 10%, on l'a dit tout à l'heure. Il faut malgré tout les prendre au sérieux. Oui. Et pour autant, il faut pas avoir une approche globale des choses, parce qu'il y a plein de comportements, la très grande majorité, 90%, qui posent pas de problème.
On entendait le patron tout à l'heure qui pratiquait le cas par cas, c'est ça que vous recommandez?
Voilà, tout à fait. Le cas par cas, l'intelligence et la fermeté en même temps pour les cas qui sont abusifs.
Merci beaucoup Lionel Honoré d'avoir répondu à nos questions. Je précise que cette étude, vous trouverez beaucoup de détails la concernant sur franceinter.fr. La question de la religion dans l'espace public ou privé, on voit bien qu'elle revient fréquemment dans cette campagne, pré-campagne électorale en France. Aux États-Unis, c'est la question noire qui est au centre de la campagne depuis avant-hier. Deux nuits d'émeute à Charlotte, Caroline du Nord. Émeute après la mort d'un homme noir, Keith Scott, 43 ans, père de famille, tué par un policier sur un parking alors que les forces de l'ordre cherchaient un suspect qui n'était pas lui. Version de la police, il avait une arme. Autre version, il brandissait un livre. France Inter aux États-Unis. Frédéric Carbone.
Ce matin, les hôtels les plus luxueux de Charlotte portent les traces les plus visibles du chaos de la nuit. Des vitrines explosées, des boutiques de cadeaux dévalisées, le hall d'un de ces bâtiments envahi par des manifestants. Autrement dit, le désordre dans le centre riche et rénové pour dénoncer l'oubli de ces quartiers où l'on peut se faire tuer par des policiers. Les forces de l'ordre justement ont paru débordées, soucieuses également d'éviter encore plus de dérapages. Mais maintenant, c'est l'heure de la reprise en main, promet Pat McCrory, le gouverneur de Caroline du Nord.
Je comprends les préoccupations. La frustration, la colère, mais jamais je ne comprendrai la violence. La violence est inacceptable. Elle est juste porteuse de chaos et ne permet de trouver aucune solution.
La priorité est donc au retour à l'ordre, mais les autorités promettent aussi la transparence dans l'enquête sur cette intervention policière. La version de la légitime défense est rejetée par la famille de la victime, les proches veulent des preuves, ils demandent d'avoir accès à la vidéo et la colère est entretenue par certaines associations. Nous n'allons pas demander à nos frères et sœurs d'arrêter, promet le responsable de la Nation de l'Islam à Charlotte, et le dirigeant de ce groupe radical appelle, comme au temps de la ségrégation, à un boycott des commerces blancs par la communauté noire. Washington, Frédéric Carbone, France Inter.
À New York, c'est l'Assemblée Générale de l'ONU et on n'y parle pas que de la Syrie ou des migrants, mais aussi des antibiotiques. La résistance aux antibiotiques érigée en menace fondamentale à long terme pour la santé humaine par le secrétaire général de l'ONU. Pour décrire cette menace, la directrice générale de l'Organisation Mondiale de la Santé reprend une expression. C'est un tsunami au ralenti.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Sur la liste des promesses du candidat Hollande, on peut mettre une jolie croix verte à côté de celle-ci. 60 000 postes dans l'éducation, c'est fait. Le ministère de l'Éducation confirmait hier que les près de 13 000 postes qui manquaient encore à l'appel étaient inscrits au budget 2017. Donc, c'est fait, encore bravo. Mais, bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Ma question, qu'y a-t-il réellement derrière ce nombre, 60 000 postes?
Alors déjà, apporter une précision, il ne s'agit pas de 60 000 postes de profs uniquement. Oui. Confusion souvent entendue, mais cela François Hollande l'a toujours dit ainsi. C'est inscrit noir sur blanc dans son programme en 2012. Ils couvriront tous les métiers. Donc si l'on veut connaître le nombre de postes de profs créés, il faut prendre sa calculette. Sur les 60 000 créations, le plus grand nombre correspond aux enseignants stagiaires. 26 301 contre 18 487 pour les enseignants titulaires. Si on les ajoute, cela fait 44 788 postes de profs, sauf que les stagiaires, Bruno, sont en formation. Ils ne sont donc pas dans les établissements, ils n'y sont qu'à mi-temps. Les 44 000 et quelques postes correspondent en fait, dans la réalité, à un peu plus de 31 000 temps plein. Pour le reste, les créations correspondent à 6 000 profs dans l'enseignement supérieur et agricole ou encore un peu plus de 8 000 emplois de CPE ou d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Côté syndicat, on a aussi pris sa petite calculette et si le compte est effectivement bon, ils ont repéré une petite entourloupe, l'ajout de 2150 postes d'assistants d'éducation, postes qui ne sont habituellement pas comptabilisés dans les effectifs. Alors bon, on va dire que le compte y est presque. Les syndicats soulignent qu'il ne suffit pas de créer ces postes, encore faut-il qu'ils soient pourvus. En 2015, 12 000 emplois sont restés vacants par manque d'attractivité.
Au lycée Voltaire, ce matin, à Paris, des poubelles devant les portes de l'établissement, des slogans, des tags sur le mode « crame ton lycée ». Une centaine de lycéens bloquaient ce matin ce lycée dans l'est de Paris pour dénoncer la loi travail et la répression policière. 900 personnes évacuées de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Il y a un incendie qui a pris au sixième étage du bâtiment. Une trentaine de pompiers sont intervenus. Happy birthday, austérité. Un coup d'œil à l'éphéméride nous rappelle qu'il y a 40 ans, jour pour jour, le gouvernement de Raymond Barre lançait le premier plan d'austérité. Depuis, le débat n'a jamais cessé entre ceux qui trouvent que la France vit au-dessus de ses moyens et ceux qui dénoncent l'obsession ces dernières années des 3% de déficit. Ce débat, il se prolonge dans la campagne de la primaire à droite avec un échange d'arguments à distance Sarkozy-Fillon hier soir. L'ancien président, qui voulait jadis une règle d'or pour les déficits publics, n'en fait plus l'alpha et l'oméga de sa politique économique, loin de là. Il préfère baisser de 10% quasiment dès son arrivée, s'il est élu, l'impôt sur le revenu. Son ancien Premier ministre, lui, est nettement plus sourcilleux. Il n'hésite pas à annoncer de mauvaises nouvelles, comme une hausse de la TVA. Alors écoutons les arguments des uns et des autres. D'abord Nicolas Sarkozy, hier soir, à Marcq-en-Barœul, près de Lille.
Je ne serai pas le candidat qui expliquera aux Français qu'il faut augmenter la TVA. Cette hausse n'a aucun sens. Elle suscitera un tel rejet qu'elle nous empêchera d'être crédibles. À tous ceux qui nous expliquent doctement que baisser les impôts est impossible, parce qu'on a trop de déficit, parce que Bruxelles s'y opposera, je veux leur dire qu'ils se trompent lourdement. Promettre du sang et des larmes sans se demander à quel moment on passe de la réforme au blocage, c'est de l'aveuglement, ça n'a jamais marché.
Allez, réponse de François Fillon, l'homme qui promet une réduction de 110 milliards d'euros de la dépense publique sur 5 ans. Ça va Churchill, le sang et les larmes ?
Ce que je propose n'a rien d'extravagant. Nos parents et vous-même n'étiez pas aux 35 heures avant Madame Aubry. La retraite n'était pas à 62 ans. Et dans les années 80, nos fonctions publiques étaient bien moins nombreuses qu'aujourd'hui et personne n'avait le sentiment de vivre dans un pays sous-administré. Par contre, vous pouvez, sous les acclamations, proclamer les promesses les plus insensées. Celles qui assurent le beurre et l'argent du beurre jusqu'au jour où l'on découvre qu'il n'y a plus de beurre, plus d'argent et plus de couverts. Et après, on s'étonne que les Français ne croient plus dans la politique.
Débat arbitré par les micros d'Estelle Schmitt et Karine Bécard. La campagne à droite à retenir encore le tweet d'Alain Juppé qui fustige la nullité du débat politique. Il vise la phrase de Nicolas Sarkozy « Dès que vous devenez Français, vos ancêtres sont gaulois ». La santé des dirigeants politiques, actuels ou passés, elle est dans l'actualité en cette rentrée 2016. C'est au cœur de la campagne présidentielle aux États-Unis. Un candidat aux plus hautes fonctions doit-il tout dire de son état de santé? En France, l'opinion est partagée quasiment 50-50 selon un sondage de l'Institut Odoxa pour le Figaro Santé et France Inter. 50% des personnes interrogées pour une totale transparence. Mais pour 49%, on ne doit pas tout savoir. Cela relève de la vie privée. Pour un respect de la vie privée. C'était le sens du communiqué de la famille Chirac hier, alors que les rumeurs sur l'état de santé du président allaient bon train. Depuis l'hospitalisation de Jacques Chirac dimanche à la Salpêtrière, Daniel Messager, les bulletins de santé sont laconiques.
Oui, à noter d'ailleurs que c'est son gendre qui en fait état et qu'il n'y a pas de bulletin officiel de l'hôpital. Alors l'état de santé de Jacques Chirac est évidemment très inquiétant. Une infection pulmonaire sur un organisme affaibli et âgé, c'est délicat. S'il s'agit d'une infection type pneumonie, dont le pneumocoque, la bactérie la plus fréquente, est responsable, on dispose toutefois d'un arsenal d'antibiotiques efficaces. Mais tout dépend après de l'état général et des défenses naturelles immunitaires de l'organisme. Or, on sait que l'ancien président est affaibli depuis son accident vasculaire cérébral en 2005. Les premiers jours de traitement de cette infection sont donc déterminants pour voir si le corps répond bien à ces antibiotiques et s'il parvient à surmonter l'infection.
Hier soir, Daniel, on apprenait que Madame Chirac avait été hospitalisée à son tour, toujours à la Pitié-Salpêtrière. Au fond, Bernadette Chirac connaît ce que connaissent des milliers de personnes en France.
Eh oui, c'est typiquement le problème des aidants. Vous vous souvenez, Bruno, hier, lors de la journée sur la maladie d'Alzheimer, on a beaucoup parlé de ces aidants, ces proches qui s'épuisent et qui, les enquêtes le montrent, décèdent parfois avant le malade lui-même. Bernadette Chirac, 83 ans, n'est certes pas seule à s'occuper de lui, mais elle est en première ligne, la plus proche au quotidien, qui soutient, qui supporte et forcément très fatiguée. Elle a eu besoin d'être prise en charge médicalement pour récupérer. N'oublions pas aussi que tous deux sont encore très affectés par le décès de leur fille aînée en avril dernier.
Hier, un tweet a beaucoup fait parler, celui de l'ancienne ministre Christine Boutin, annonçant sans précaution, sans attendre de source officielle et de manière lapidaire la mort de Jacques Chirac. Christine Boutin en a pris plein la figure sur le réseau social, à tel point que le journal Le Monde l'a interrogée sur le sujet. L'information, dit-elle, m'a été donnée par une source que j'estime sûre. Je l'ai donnée car je pense que les Français l'attendent. La sobriété du message est la marque de mon deuil et de mon respect. Un adversaire de moins pour Paris dans la course à l'organisation des Jeux Olympiques 2024. La nouvelle maire de Rome est opposée à une candidature de sa ville pour des raisons économiques et écologiques, non au jeu du béton, dit Virginia Raggi. Même si le retrait de Rome n'est pas encore officiel, on peut estimer que ne reste plus que deux adversaires face à Paris, Budapest et Los Angeles. Alors dans la capitale française, tout le monde derrière la candidature? Eh bien pas forcément. Le discours de la maire de Rome ressemble à celui des écologistes parisiens. David Béliard est le co-président du groupe Écolo à la mairie.
Nous, on s'est opposé à la candidature aux Jeux Olympiques pour des questions à la fois de soutenabilité financière et puis de soutenabilité environnementale. On a abordé dans le débat un certain nombre d'interrogations que nous avons, notamment sur les dépassements budgétaires. Ce que je constate, c'est que Rome partage ces arguments. Nous continuons à penser qu'il y a de trop grandes incertitudes par rapport à cette candidature et qu'il faut absolument pouvoir faire voter dans le cadre, par exemple, d'un référendum, l'ensemble de la population francilienne sur l'opportunité de déposer une candidature aux Jeux Olympiques.
Un propos recueilli par Guillaume Batin et le vote pour la ville organisatrice des JO 2024 aura lieu en septembre 2017. La rubrique People, mais oui, de ce journal. Un petit chéri, une femme embarquée dans une rumeur et un homme d'excès. Le petit chéri du cyclisme français annonce sa retraite. Un dernier Tour de France l'année prochaine pour Thomas Voeckler et puis il arrêtera. Face aux rumeurs, Marion Cotillard prend les devants sur le réseau social Instagram. Elle n'a rien à voir de près ou de loin avec le divorce Brad Pitt-Angelina Jolie, voilà c'est dit. Et l'homme d'excès, c'est Gérard Depardieu, nouvelle saillie contre la France d'aujourd'hui dans la presse italienne. Elle risque, dit Depardieu, cette France de devenir un Disneyland pour les étrangers. Comme promis des nouvelles de Daft Punk, le duo français fait une petite pige sur l'album de l'artiste The Weeknd. Collaboration entre les stars versaillaises de l'électro et le DJ et compositeur canadien. Cela donne le titre Starboy. Il sortira le 25 novembre, mais un extrait de 30 secondes, c'est comme ça dans l'industrie de la musique aujourd'hui, un extrait circule déjà, on n'allait pas s'en priver. Et remercions Corinne Pellissier qui nous aura fait danser 30 secondes Starboy, The Weeknd avec Daft Punk, sorti du titre en entier et de l'album du Canadien le 25 novembre. C'est la fin de ce journal.